RTL, il est 9h.
Non.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Valérie Manteau a déjoué tous les pronostics en remportant le prix Renaudot le 7 novembre dernier. Son roman Le Sillon est désormais sur le chemin du succès. Nous entendrons la jeune auteure dans un instant au micro de Bernard Lelu. À suivre aussi les confidences d'une des plus grandes cantatrices, Cecilia Bartoli, la mezzo-soprane italienne, interprète Vivaldi dans un album qui vient de paraître. C'est le classique d'or RTL du mois de novembre et on en découvrira de larges extraits en compagnie de Charlotte Latour. Nous pousserons la porte du musée Mayol à Paris pour découvrir une exposition qui met en scène les œuvres du sculpteur Alberto Giacometti face à celles qui l'ont influencé. Visite guidée avec Sophie Orange. Et puis nous jetterons un œil sur nos programmes télévisés du soir, comme chaque jour, avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré la lauréate des grands prix littéraires que personne n'avait vu venir.
Ah oui.
Valérie Manteau, c'est son nom, a reçu le prix Renaudot pour son roman Le Sillon.
Mais oui, alors qu'elle ne figurait même pas sur la liste des finalistes, le jury a transgressé ses propres règles. Ce n'est pas la première fois, hein, Renaudot. Et donc choisi le deuxième livre de cette ancienne journaliste de Charlie Hebdo, aujourd'hui chargé d'édition au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM à Marseille. Oui. Et c'est là que Valérie Manteau a appris l'attribution de son prix.
Je travaille au MUCEM et j'étais en train de faire complètement autre chose et j'avoue que la priorité du jour n'était pas totalement la remise des prix puisque je ne pensais pas être concernée, j'étais plus sur la liste depuis plusieurs semaines et mon éditeur m'a appelée, j'ai cru que c'était une blague, alors j'ai cru que c'était une blague qu'il me faisait et finalement moi j'ai attendu tranquillement que ça soit officialisé, j'ai pas tout à fait cru,
ah oui,
donc j'ai attendu en écoutant la radio comme tout le monde. Et que ça soit officiel. Et puis j'ai pris le train. Je suis arrivée beaucoup trop tard pour la remise du prix.
Ben oui, on vous
lui-même.
Attendait sur place.
Beaucoup j'avais pas attendu assez longtemps. Donc je suis arrivée le soir.
Alors, que raconte Valérie Manteau dans Le Sillon pour avoir emporté, par surprise en quelque sorte, l'un des prix les plus convoités ?
Eh bien, c'est un livre, comment dire, en trompe-l'œil. À première vue, on a l'impression qu'il s'agit d'un roman d'amour. Une femme, qui est d'ailleurs Valérie elle-même, part à Istanbul retrouver son âme en turc et vivre sur les rives du Bosphore. Mais Le Sillon prend vite une autre dimension.
J'avais assez envie d'écrire un livre sur Istanbul et j'aurais préféré, je le dis à plusieurs reprises dans le livre, j'aurais préféré écrire un roman d'amour sur Istanbul ou un guide de voyage pour cette ville extraordinaire. Mais je crois que c'est plus très possible d'écrire simplement un livre d'amour sur Istanbul ou un livre de promenade sur le Bosphore. Ça a beaucoup été fait, c'est une ville qui a beaucoup inspiré les écrivains, mais aujourd'hui, vu la situation politique, ça n'est plus possible de n'écrire que ça, de ne pas voir le contexte politique, de ne pas voir la violence de l'histoire, disons, du siècle précédent. Donc voilà, il y a ces deux choses qui s'entrecroisent dans le livre. Donc j'ai essayé de garder la fraîcheur, la beauté d'Istanbul dans le livre, mais ne pas occulter la part sombre qui a pris en plus de plus en plus de place ces derniers mois, ces dernières années.
Et c'est justement ce subtil dosage qui fait l'originalité du livre de Valérie Manteau et lui donne toute sa densité au fil de ses déambulations dans la ville, de ses rencontres et de ses lectures. La jeune femme découvre le destin tragique d'un journaliste arménien, Hrant Dink, tué en 2007 devant les locaux de son journal, Agos, autrement dit Le Sillon.
Mais la vie quotidienne, c'était de se dire « Ah, dans les rues dans lesquelles je suis en train de me promener, il y a un homme qui a été assassiné il y a moins de 10 ans parce qu'il était arménien. » Parce qu'il parlait en tant qu'arménien et que quand on parle en tant qu'arménien en Turquie, aujourd'hui encore, on peut être assassiné dans la rue par un gamin de 17 ans dont le cerveau a été lavé par le nationalisme. Et voilà, moi je voulais pas laisser ça de côté, je voulais pas ne pas le voir.
Alors que fait ce personnage Valérie Manteau ?
Eh bien, passionné par Hrant Dink, la figure du dialogue entre les communautés et le symbole de la liberté d'expression bafoué, Valérie Manteau nous en raconte l'histoire, elle en fait le fil rouge de son livre, tout en évoquant en permanence l'envoûtante ville d'Istanbul et ses habitants déchirés entre un passé fastueux et les convulsions de la Turquie d'Erdogan et écartelés entre l'Asie et l'Europe.
Ils sont à cheval, géographiquement parlant, littéralement parlant, sur deux continents et culturellement. Culturellement, ils ont une situation géopolitique et géographique inédite dans le monde, je pense, et qui donne une complexité incroyable à leur histoire, à leur civilisation. C'est vraiment un croisement de civilisations plus brillantes les unes que les autres. Donc moi, j'ai essayé de garder cette complexité. Je pense que c'est très important qu'on la conserve, parce que d'abord, ça nous aide à comprendre ce qui se passe là-bas, mais ça nous aide à comprendre également notre propre civilisation. Moi, je pense que l'Europe ne serait pas l'Europe s'il n'y avait savais pas, ce pays intermédiaire qu'est la Turquie.
Valérie Manteau, lauréate surprise donc du prix Renaudot, signe Le Sillon, singulier roman d'amour et indispensable plaidoyer pour la liberté. Le livre, et c'est à noter également, est publié par une toute jeune et modeste maison d'édition, Le Tripode, qui ne s'attendait pas à Paris Fête.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans quelques instants, l'actualité télévisée avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et nous allons commencer, Isabelle Morini-Bosque, par les audiences de la veille avec Médiamétrie.
Eh bien, les Rivières pourpres sont en tête. 4 900 000 épisodes pour les deux premiers épisodes. 19% du public sur la 2. Devant la France, L'amour est dans le pré, près de 4 millions de téléspectateurs. Et en troisième position seulement, Une famille formidable avec un peu moins de 3 600 000 personnes sur la 1, 14% du public. Côté TNT, c'est sans surprise TMC qui est nettement en tête avec Jurassic World, 1 800 000 téléspectateurs.
Les programme de ce soir. D'abord, on signale sur la 2 Cash Investigation consacrée à la santé. Oui. Mais on peut également s'amuser ce soir grâce à plusieurs divertissements. Par exemple, la France, un incroyable talent, c'est sur M6.
Cinquième et dernière soirée d'audition avant demi-finale. On regarde évidemment pour les incroyables talents ou pas. Mais aussi pour le jury, ça fuse et diffuse dès le premier numéro.
Vous venez d'où ?
78, yeah. 92, 95.
Oui, ce sont mes mensurations, parfait. Donc,
Vos costumes, ça ne matchait pas sur la scène. Vos costumes à votre numéro, c'est ce que David Ginola est à l'émission. C'est beau, mais à quoi ça sert ?
Voilà, 21h10, M6.
Alors, on ne va pas oublier les comédies, hein, comme Les Chamois sur TF1.
Saison 2, vous vous souvenez ?
Pas du tout.
Lors de vacances à la neige dans la saison 1, le chef d'entreprise Étienne Leroy, François Berléand, avec sa femme Isabelle Gélinas, découvrait que leur fille Emma vivait avec le fils de sa déléguée syndicale la plus radicale, Julie Depardieu. Oui. Un an plus tard, arrivée d'un bébé, et lorsque l'enfant paraît, la tranquillité disparaît, surtout que là, il est question de baptême. Les Leroy le projettent, la déléguée le rejette, et le nouveau papa se défile tant qu'être sur un terrain glissant, il préfère que ce soit ceux du domaine skiable, mais il est vite repéré par sa belle famille.
Dylan !
Ah bah vous êtes là !
Je te présente le père Cyril, on parlait du baptême de Victoire.
Ah bonjour Dylan.
Bonjour. Ah un baptême ? Dans une église et tout ?
C'est un peu le principe, oui.
Bon bah moi j'y vais, hein, je vais skier. Bonne journée.
Dylan, attends ! Il est trop bizarre depuis hier soir.
Depuis hier soir ? Depuis qu'il est né, non ?
Oui. Bon, un petit jeune épi ?
Oh, quelle heure est-il ? 10h.
Ah bah alors avec joie.
Voilà, ça, c'est le curé qui est supposé baptiser le bébé. Et donc, avec également François Vincentelli, que j'aime beaucoup. C'est inégal, mais très attachant, souvent drôle. Et puis, il y a la neige, les sapins de Noël et les bûches. Bûches sur les pistes, dans les cheminées et sur les tables. Moi, tout ça, ça me va.
Tout ce qu'on aime, vous et moi. Alors, vous avez un dernier coup de cœur, c'est sur W9.
Ah oui, vraiment. Ça s'appelle La Petite Histoire de France, habituellement diffusée le dimanche sur la chaîne. J'adore l'originalité de ce programme humoristique qui raconte, en une suite de sketchs parallèles, un peu comme dans Scène de ménage, le quotidien du cousin en disgrâce de Louis XIV, le formidable François Léventhal, du cousin de Bonaparte qui rêve de cuisiner pour son illustre parent, et du cousin de Jeanne d'Arc. Tous ont ce soir droit à un prime, comme on dit, cette fois encore produit par Jamel Debbouze, qui fait d'ailleurs une apparition en Roi Soleil. Cette fiction se termine, hélas, ce soir, avec là aussi une thématique. Le cousin de Jeanne d'Arc vient d'avoir un bébé, qu'il faut donc là aussi baptiser, mais le grand-père, une brute épaisse jouée par Olivier Marchal, a des idées très précises sur la question.
On va peut-être essayer de s'occuper de choses plus importantes. Aller délivrer Jeanne d'Arc, par exemple.
Oui, oui, bien sûr. Mais bon, c'est... Il n'est pas baptisé, le petit. Alors moi, il faut que j'attende.
Il n'y a que ça. On va régler le problème vite fait.
Non, non, mais en fait, on va plutôt laisser faire le curé.
Le curé ? Depuis qu'on fait appel à un curé, on a toujours réglé ça nous-mêmes dans la famille, c'est la tradition.
Oui, mais en fait, je lui ai promis, alors c'est un peu compliqué, rapport à la colère divine, le châtiment, tout ça.
Ah oui, je vois, on piétine la tradition, c'est ça, hein ?
Isabeau, c'est la tradition.
Non, François, je te jure que tu veux pas.
François, t'es en train de te faire marcher sur les couilles. Tu prends le petit, je prends le sac, on va au lac.
Le sac ?
Ouais, tu le mets dedans, tu le jettes dans la flotte, c'est cool. C'est que ça valait pas le coup, s'il s'en sort, bienvenue dans la famille. Voilà, c'est comme ça.
Tu vois, je t'avais dit, François, le curé.
T'as baptisé, toi ?
Bah oui, mais moi, j'ai eu de la chance, je suis née en février, alors le lac était gelé.
Voilà. C'est drôle, moi j'aime beaucoup.
Je suis très triste que ça s'arrête ce soir, donc sur W9 à partir de 21h05.
Eh ben très bien. Allez, place maintenant à la plus grande star des scènes d'opéra, la chanteuse lyrique Cecilia Bartoli. Le nouvel album de la mezzo italienne et notre classique d'or, Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez en boucle ce nouvel album Vivaldi, n'est-ce pas ?
Oui, album aux mille vertus, réjouissant, apaisant. L'ambiance du disque est plutôt à la retenue, mais il s'ouvre sur cet extrait très dynamique d'Argipo, un des 90 opéras de Vivaldi.
Thank you.
Cecilia Bartoli avait sorti un premier album Vivaldi en 99. À l'époque, sa maison de disques avait dit « Bon, ok, mais ça ne marchera pas. On te prévient. » Résultat, 700 000 albums vendus. Au moment de sa sortie, quand on jouait Vivaldi, on interprétait, bien sûr, les quatre saisons, les concertos pour flûte, pour violon aussi, mais pas ou très peu de musique vocale. La cantatrice italienne a ainsi permis la redécouverte de ce répertoire, offrant au prêtre roux une nouvelle jeunesse. Ce deuxième opus, 20 ans plus tard, présente un Vivaldi moins explosif, plus mélancolique, plus touchant, mettant toujours en valeur la voix.
La voix comme un instrument d'une virtuosité incroyable. C'est ça ce qu'il a écrit, Vivaldi. La voix qui doit chanter à l'unisono avec le violon, d'une façon très, très virtuose, et avec de sautes, du grave, registre très aigu, comme ça. Et là, j'étais très impressionnée de ça. Mais finalement, c'est pas que ça, Vivaldi. Vivaldi est allé beaucoup plus loin. Il était vraiment arrivé à toucher le cœur de gens et l'âme. Alors voilà, et il vient maintenant ce disque beaucoup plus profond, beaucoup plus sensuel, plus méditatif aussi, je peux dire. Oui.
Con mio diletto, un air presque chuchoté d'amoureux qui ne peut être auprès de sa bien-aimée. C'est intime, c'est déchirant. À l'image de la pochette de l'album, une photo sobre, noir et blanc, gros plan du visage lisse et doux de la diva. C'est ça le baroque, tantôt fougueux, tantôt poignant, comme dans cet air d'Orlando Furioso.
C'est tout un univers qui nous parle d'une façon tout à fait différente par rapport à la musique romantique.
Dans quel sens ?
Dans le sens que je pense que la musique est beaucoup plus directe. Il y a une modernité dans la musique baroque. Déjà de la façon où la musique est structurée. On passe de airs dramatiques à des airs mélancoliques, à des airs de caractère. Et même les histoires sont compliquées, mais pleines de surprises tout le temps.
Des surprises, oui, Cecilia Bartoli le dit, comme dans ce moment plein d'espièglerie.
Alors Cecilia Bartoli sera bientôt en concert à Paris. Charlotte, est-ce qu'avec le temps, sa préparation avant un concert a changé ?
Alors c'est vrai qu'elle sera le 3 décembre à la Philharmonie à Paris. Sa préparation n'a pas tellement changé, elle va nous le dire, mais alors elle reste très discrète sur ses petites habitudes. Une chose est sûre, en tout cas, elle est toujours très traqueuse.
Non, la préparation est toujours la même et c'est toujours le même trac avant d'y aller sur scène parce que c'est du live et on ne sait jamais... qu'est-ce que ça peut arriver, hein. On passe d'une ville à l'autre, la réaction est différente du public. On travaille avec l'orchestre, on répète, on fait des acoustic checks, comment dire.
Et vous êtes du genre à vous ronger les ongles avant d'entrer sur scène, ou vous ne dormez plus.
Enfin, non, peut-être pas ça, parce que c'est pas bien de pas dormir. La voix a vraiment besoin du repos et du sommeil. Alors, mais le trac reste, et finalement, ça doit être comme ça, parce que quand on a le trac, on arrive quand même à produire une adrénaline qui est tout à fait nécessaire sur scène pour les artistes.
Des graves aux aigus, la tenue du souffle, c'est prodigieux, Cécilia Bartoli. Et par ailleurs, une femme très occupée, une vraie femme d'affaires, directrice de festival à Salzbourg, à la tête d'un orchestre basé à Monte-Carlo, responsable d'une collection de disques mettant en avant de jeunes espoirs du lyrique, elle n'arrête pas. Clairement, rester passive ou ne rien faire, ça n'a pas sa place dans son agenda. En tout cas, sur cet album extrêmement réussi aux notes feutrées, elle s'est entourée d'une troupe de Vivaldiens avec qui elle a souvent joué, l'ensemble Matheus et son chef énergique et inspiré, grand amoureux des voix, Jean-Christophe Spinozzi. Cet album Vivaldi de Cécilia Bartoli vient tout juste de paraître chez Decca. C'est l'album classique d'or RTL de ce mois de novembre. Et puis à noter, elle a aussi sorti il y a quelques semaines un superbe coffret Rossini, 15 CD, à l'occasion des 150 ans de la mort du compositeur.
Passé avec Cécilia Bartoli. Merci beaucoup Charlotte Latour. Dans quelques instants, Mayol et Giacometti. A tout de suite.
RTL, laissez-vous tenter, 9h19.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Bonjour Sophie Orange.
À tous.
Vous nous faites découvrir ce matin le travail du sculpteur Alberto Giacometti sous un nouveau jour. Hein. Comment et par qui a-t-il été influencé? Par quoi a-t-il été nourri? Giacometti, entre tradition et avant-garde, c'est en fait au musée Mayol à Paris.
Et son premier professeur a été Antoine Bourdelle. Les élèves venaient Bourdelle. De monde entier dans les années 20 à Montparnasse pour suivre les cours de l'artiste, grand spécialiste des sculptures sur modèle. Giacometti, fraîchement arrivé à Paris à 20 ans, y a passé quelques mois en 1925 avant de s'en détacher. Il aimait aussi beaucoup Aristide Mayol. Dans l'un de ses carnets de dessin, d'ailleurs, le jeune sculpteur s'était permis de mettre des notes. Mayol s'en sortait très bien. Mais son maître absolu, c'était l'immense Auguste Rodin, de 40 ans son aîné. En témoigne cette jolie histoire racontée par le commissaire de l'exposition Thierry Poteau. Alberto avait alors 13 ans.
Giacometti rentrait pour les vacances de Noël chez lui et en chemin, il va utiliser l'argent qu'il avait pour payer son billet d'autobus pour s'offrir un ouvrage sur Rodin qu'il vient de découvrir dans une librairie et donc il est contraint de rentrer chez lui à pied la nuit et ses parents le découvrent arrivant à 5h du matin complètement frigorifié mais tenant contre lui ce livre sur Rodin.
À cet âge-là, Giacometti, 13 ans, avait déjà un petit brin de génie, hein, puisqu'il avait réalisé ce sublime buste de son frère Diego, qu'on le retrouve d'ailleurs dans la première salle de l'exposition. 10 ans plus tard, à partir de 1925, Giacometti se rapproche du cubisme et de ses personnages géométriques. Il s'intéresse aussi de très près aux arts africains et primitifs, avec leurs masques, leurs boucliers, leurs totems, sans oublier les sculptures archaïques des Cyclades, ces figures plates évoque des visages ou un corps, à chacun d'imaginer ce qu'il voit. 1935, retour aux sources, retour à la figuration, retour à la sculpture de visage sur modèle. Son frère Diego et sa femme Annette sont ses principaux modèles. Ils passent des heures et des heures et des heures assis. Réaliser des bustes dans les années 1910 ne posait pas de problème à Giacometti, sauf qu'en 1935, il n'y arrive plus.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais le commissaire de l'exposition va nous l'expliquer. État d'âme d'un génie.
Il va tenter de peindre ses sculptures. On va voir les têtes, les bustes se réduire pour jusqu'à disparaître complètement. Et il n'y arrive jamais, ça devient son obsession. Il pensait que tout ça allait se faire très très facilement, très rapidement, que c'était l'histoire de 15 jours. Et en fait, cette obsession va lui prendre tout le reste de sa carrière parce qu'il ne va jamais arriver à réaliser une tête comme il la voit. C'est quelqu'un qui se remet perpétuellement en question, qui constamment est insatisfait, donc il détruisait beaucoup d'œuvres, et à chaque fois il recommence. Très très vite, le lendemain, il va dire « Ah mais si, j'ai quand même avancé, et je vais y arriver ».
Vous avez compris, hein, ces œuvres que nous on considère comme des chefs-d'œuvre, comme des beautés incroyables, pour lui c'est un échec. Giacometti, obsédé par les visages et la figure humaine, comme il l'expliquait lui-même d'ailleurs dans une interview à la télévision.
« Depuis toujours, la figure humaine m'intéressait plus que n'importe quoi. Au point que je me rappelle, étant jeune homme ou à Paris, déjà, il m'est arrivé de fixer tellement les gens présents que je ne connaissais pas, ça les mettait hors d'eux. Comme si je ne voyais pas ce que je voulais voir. »
Réflexion vertigineuse. Je vous conseille, vous, de passer du temps devant ces bustes, ces têtes tout aussi sublimes les unes que les autres. Une salle vraiment splendide. Des têtes de Giacometti mises en résonance avec des visages signés Mayol ou Bourdelle. Remarquez aussi les socles de ces visages ou de ces corps. Ils peuvent faire 5 ou 10 cm alors que les têtes, elles atteignent à peine 1 ou 2 cm.
Et j'imagine, puisqu'on parle de Giacometti, qu'il y a forcément ces grandes figurines filiformes qui marchent.
Évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que les trois nymphes de la prairie, par exemple, réalisées en 1930 par Mayol, semblent être les grandes sœurs de ces trois hommes qui marchent, signé Giacometti, ou de la forêt. Et pour boucler la boucle, une photo monumentale de Giacometti au milieu des bourgeois de Calais, signée de son maître absolu, Auguste Rodin, photo assez malicieuse. Ne manquez pas, en tout cas, au musée Mayol, ces sculptures d'Alberto Giacometti et aussi 25 sculptures de Mayol, de Rodin ou de Brancusi. Vous avez jusqu'au 20 janvier prochain.
Merci beaucoup Sophie Orange. On marque une dernière pause et dans quelques instants, nous accueillons Julien Courbet. Merci Antonio, merci beaucoup. Alors, il y a un moment où il faut quand même mettre un terme à tout cela. Alors moi j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Demain, nous dévoilerons avec Laurent Marsic dans cette émission le lauréat du concours du premier roman jeunesse RTL, Gallimard et Télérama. Merci à toute l'équipe. On retrouve tout de suite Julien Courbet et son équipe en attendant son premier roman.
C'est bien que vous entendu. Alliez dire et son orchestre. Oui, alors je vais vous dire une chose sur le prix de la jeunesse. Là, il y a quand même peu de chances que quelqu'un dans ce studio puisse l'avoir. Ça s'arrête à quel âge la jeunesse?
Non, mais la question n'est pas une question d'âge. C'est le premier roman qui est important.
Ah, d'accord. Oui, ils ne sauront pas encore. Bah, dès qu'on saura à peu près parler français, on en fera un et on vous le fera passer. Je vous souhaite une belle journée, monsieur.
Très aimable. On l'attend avec passion, Bernard Lehu et moi-même.
Voilà. Et Julien, vous n'avez peut-être pas d'orchestre, mais vous les menez à la baguette, hein, tout de même.
C'est une machine. Elle ne s'arrête jamais.
Elle ne s'arrête jamais. Trait d'esprit à chaque instant.
Elle est un petit peu comme le lapin de Duracell. Quand certains, à un moment donné, s'arrêtent, vous voyez, l'émission s'arrête, elle continue. Elle est fantastique.
Incroyable.
Merci. Gros bisous, ma Isabelle. Bonne journée à vous tous.
Écoutez RTL.